J'ouvre avec vous la Bible dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Ecclésiaste, vers le milieu de la Bible, et je vais attendre quelques secondes pour que vous trouviez ce texte, parce que c'est toujours une excellente idée de prendre sa Bible avec soi et d'en suivre la lecture. On s'imprègne davantage de la lecture quand on peut la suivre soi-même. Et dans le livre de l'Ecclésiaste, qui est après le livre des psaumes, le livre des proverbes, je lis au chapitre 9 de ce livre-là, au chapitre 9, ce sont les paroles du roi Salomon. Il dit ceci, au verset 11 du chapitre 9, « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux, et je souligne, tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Le message que je veux vous apporter aujourd'hui a pour titre « Qu'est-ce qui compte dans la vie ?» On pourrait donner un autre titre, l'estimation des valeurs. En y réfléchissant bien, j'ai trouvé qu'il serait impossible d'établir une table des valeurs. Bien sûr, nous avons nos tables de multiplication, nos sinus, nos cosinus, mais tout n'est pas mathématique dans la vie. Il y a les sciences exactes, mais il y a les sciences humaines. Et les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent être. Et même si les choses étaient toujours ce qu'elles paraissent être, il faudrait encore les classifier en valeurs sûres, valeurs relatives, valeurs temporaires, valeurs négatives. Mais même alors, les données que nous aurions resteraient relatives en raison de nos goûts et de nos préférences personnelles. Je m'explique. Nous allons prendre une valeur sûre. L'homme ou la femme, mais employons le terme générique, l'homme. Que vaut un homme à sa naissance? Eh bien, à sa naissance, le premier ou le deuxième détail qui est consigné dans le carnet de maternité, c'est 3,5 kg ou 400. Combien il pèse? Et nous trouvons normal qu'on estime la valeur de quelqu'un à son poids. Peut-être bien que cela est acceptable, mais 20 ans plus tard, imaginez cette jeune fille qui téléphone à son ami et qui lui dit « Tu sais, je viens de me fiancer. » Et à l'autre bout du fil, l'ami dit « Et comment est-ce qu'il est ?»« Oh, un fameux lapin, 80 kilos. » Mais c'est choquant. Ça vous choque? Et je comprends. Mais 20 ans plus tôt, ça n'a pas choqué. Alors, qu'est-ce qui compte dans la vie? Les années passent, le petit bébé grandit, il devient un petit garçon, une petite fille, et là il va aussi y avoir une évolution dans l'estimation. Ce ne sera plus son poids, mais une autre dimension. Ce n'est plus la balance, maintenant c'est la toise. On va dire, oh quel grand garçon! Et à cette époque-là aussi, ce qui va compter, ce sont ses succès scolaires. On va l'évaluer au pourcentage de ses résultats à la fin de l'année. Il vaut 60, 75 ou 90%. Et si le gosse n'est pas très intelligent, il aura toujours la ressource d'être finaud comme un bon Français. Et si on lui demande « Tu as une belle place à l'école ?» Il va dire « Oh oui, près du radiateur, en dessous de l'horloge ou près de la porte de sortie. » Les années passent, nous nous le retrouvons à 20 ans, et à 20 ans, l'estimation des choses, qu'est-ce qui compte, change aussi de valeur. À cet âge, on soigne surtout son aspect extérieur. C'est ça qui compte, comparer. Et intérieurement, secrètement, il convoitera les belles têtes des vedettes qui ornent les belles affiches de publicité. Et à cet âge-là, quand elle le regardera, elle l'appréciera d'autant mieux qu'il sera carré d'épaule et qu'il aura une démarche altière. Et lui, pour lui plaire, il fera du bodybuilding où il se fera rembourrer les épaulettes. Ça, c'est à 20 ans, 21, 22 ans. Mais au lendemain du mariage, ils vont virer de bord tous les deux. Avant le mariage, ce qui compte, c'est ce qu'ils paraissaient être, ce qu'ils paraissent être. Après le mariage, ce qui compte, c'est ce qu'ils sont. C'est-à-dire que du corps, la valeur va passer sur l'âme, c'est-à-dire sur le caractère, parce que notre âme, c'est notre caractère, ce qui nous caractérise. Ce qui a fait dire à quelqu'un un jour, quand je l'ai épousé, c'était une taille de guêpe. Et là, c'était une guêpe de taille. Ce qui va compter aussi, les choses les plus importantes au monde qui comptent quand on est jeune, ce sont aussi les exploits sportifs. C'est ça qui compte. Et je me souviens avoir retrouvé, oublié dans un tiroir, un certificat d'athlétisme. À l'époque où, assez péniblement d'ailleurs, je remportais la victoire sur le 1000 mètres. Cela me semblait digne des efforts qu'il fallait y mettre et du temps qu'il fallait y passer. Mais mon appréciation a changé. La preuve, c'est que le beau diplôme reposait oublié dans un tiroir. Ah, mais c'est qu'entre-temps. C'est qu'entre-temps, il s'était passé quelque chose dans ma vie. Entre-temps, j'avais rencontré le Seigneur et le livre du Seigneur, la Bible, qui dit « L'exercice corporel est utile. » L'exercice corporel est utile à peu de choses. Et oui, les valeurs changent avec le temps qui passe. Certains estiment que ce qui compte dans la vie, c'est la force physique, d'autres la santé, la moralité, la personnalité, l'honorabilité, la position, les finances, la fortune. Le grand roi Salomon s'était acquis toutes ces choses, et d'une valeur, il passait à une autre. De la richesse, il passait au travail, du travail au renom, à la renommée, de la renommée à la sagesse, de la sagesse à la politique, de la politique à l'amour et de l'amour au plaisir. Et quand il a tout essayé, il a écrit « Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent ». Car c'est vrai que le temps qui passe, comme nous l'avons lu, tout dépend du temps et des circonstances. Le temps qui passe et les circonstances qui changent balayent souvent les valeurs que nous croyons les plus sûres et que nous croyons les plus stables. Et puis, il faut aussi admettre que les valeurs ont des couleurs locales. Ce qui est vrai ici à Champagnole n'est pas nécessairement vrai 500 kilomètres plus loin. Et tout tient parfois à l'éducation que nous avons reçue. Par exemple, l'Inde est un pays surpeuplé, 1 milliard d'habitants si je ne me trompe pas. La misère noire, des familles énormes, la natalité galopante. Et l'État essaie d'introduire des idées nouvelles comme le planning familial, et entreprend une campagne de publicité avec des belles affiches représentant un beau couple, avec deux enfants, des habits convenables, respirant la santé, respirant aussi l'abondance. Mais l'inattendu, c'est que ces pauvres mères, ces gens qui vivent dans la misère, en voyant ces affiches, ont eu une réaction inattendue. Ils ont dit, oh, ces pauvres gens, ils n'ont que deux enfants. Qu'est-ce qui compte dans la vie? Qu'est-ce qui compte? Ou bien comme cette grande dame de la Rome antique, Cornélie, la mère des Gracques, qui un jour, devant une autre patricienne, qui lui présentait ses bijoux, lui a demandé, « Et vous, madame, quels sont vos bijoux ?» Et elle a dit, « Mes 12 enfants, ce sont mes bijoux. » Je vous le demande, quelle femme aujourd'hui répondrait comme elle? Aujourd'hui, une femme vous ferait descendre dans la rue et vous dirait, « Vous voyez cette voiture rutilante là? Eh bien, les 12 chevaux sous le capot, ça ce sont mes joyaux. » Qui a raison? Qu'est-ce qui compte dans la vie? Qu'est-ce qui compte? Ou comme ce petit chef de l'Afrique centrale, il est polygame, il a plusieurs épouses, mais il en a une à laquelle il tient par-dessus tout. Elle est dans une case, elle ne fait rien, elle est très représentative, elle mange, elle s'empiffre, elle grossit, elle a d'autant plus de valeur qu'elle est grosse et qu'elle est ronde. C'est-à-dire que pour lui, le style parfait, c'est le style zéro. Pour nous, c'est le style Y. Mais qui a raison? Qu'est-ce qui compte dans la vie? Moi, je ne sais plus rien à présent. Et pour revenir à nous, le temps qui passe nous renseigne souvent sur la fragilité des valeurs. Ce que nous avons tant désiré aujourd'hui peut ne plus nous intéresser demain. C'est vrai pour le petit enfant. Il revient de l'école et il passe tous les jours devant la vitrine du marchand de jouets. Et là, dans la vitrine, il y a un jouet qui l'intéresse. Il le regarde, il le convoite, il y pense. Il en parle à ses parents, il en parle à tout le monde, il ne rêve plus que de ça, et tous les jours il vient, il appuie sa tête sur la vitrine, et de l'intérieur on voit ce petit nez qui s'écrase et qui devient blanc. Et le soir, dans ses prières, il joint les mains parce qu'il pense aux jouets. Et arrive Noël ou l'anniversaire, et enfin, le jouet est là comme un cadeau. Il l'a tant désiré. Mais 15 jours après, on le retrouve sous le lit, dans un coin de la chambre. Ça ne l'intéresse plus. Qu'est-ce qui compte dans la vie 15 jours plus tôt, puis 15 jours plus tard? Dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 13, si je ne me trompe pas, vous y trouvez une histoire intéressante. Un jeune homme de la famille royale qui tombe amoureux de la fille du roi. Il s'appelle Ammon el Tamar, là. La jolie fille du roi. Il tombe amoureux, amoureux fou comme un collégien. Il n'en mange plus, il maigrit. Il ne pense qu'à elle. Tamar, Tamar, il n'y a qu'elle. Connaissez-vous la fin de l'histoire? Quelques jours après, il est dit, il éprouva de l'aversion pour elle. Et l'aversion qu'il éprouva était plus grande que l'amour qu'il lui avait porté. Alors, qu'est-ce qui compte dans la vie 15 jours plus tôt, puis 15 jours plus tard? C'est vrai pour nous. Nous avons mis toutes nos forces dans la balance pour avoir quelque chose, et il a suffi de bien peu de choses pour que tout bascule. Il suffit parfois d'un état d'âme pour tout changer. Un simple état d'âme. Regardez Judas. Il est allé avec le Seigneur pendant 3 ans. Et puis, un jour, il a convoité un champ qu'il voulait acheter. Il lui manquait 30 pièces d'argent. Et il a commis l'infamie de vendre, de trahir son maître bien-aimé pour 30 pièces d'argent. parce qu'il les a voulu, ces pièces d'argent. Et quand il les a eues, il ne les avait pas 24 heures dans ses mains, que ça s'est mis à lui brûler les doigts. Il a couru dans le temple, il a tapé les 30 pièces d'argent, il n'en voulait plus. La veille, il les voulait, la veille d'après, il ne les voulait plus. Il suffit d'un changement de circonstance pour que tout change. Notre estimation des valeurs, qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui comptait quand ces milliardaires américains ont pris place sur le Titanic dans ce mois d'avril 1912, bateau insubmersible, et quand il a touché l'iceberg, et qu'on le croyait quand même insubmersible, que les canots ont été mis à la mer, et quelques-uns n'avaient pas la moitié de leurs passagers, à quoi bon puisqu'ils ne pouvaient pas couler? Mais quand on s'est aperçu qu'il coulait, on a vu des femmes riches arracher leurs joyaux et les offrir pour une place dans un canot. Mais des rivières de diamants ne pouvaient plus payer une place dans un canot. Tout l'or du monde, il paraît qu'il y avait 4 tonnes d'or de la Banque d'Angleterre dans les cales. Plus rien ne pouvait payer une place dans un canot. Ah, il suffit de bien peu de choses pour que tout change. Il suffit parfois d'un déplacement géographique pour que tout change. J'ai lu cette histoire d'un arabe égaré dans le désert. Il avait une provision d'eau, mais il n'avait plus mangé depuis 2 jours. Il mourait de faim. Et il est arrivé dans un endroit où il y avait un puits, il y avait eu un campement, il restait des traces. Et il a cherché partout dans l'espoir de trouver quelque chose qu'on aurait oublié. Et il a trouvé un petit sac bien serré au col, rempli de choses dures. Il l'a ouvert espérant que c'était des noix ou des dattes. Et quand il l'a ouvert, il l'a rejeté en disant « Ce ne sont que des perles !» Ce ne sont que des perles. C'est vrai que dans les grandes crises de la vie, ce que nous convoitons le plus sonne parfois comme une moquerie sinistre. Mais lorsque nous devrons comparaître devant Dieu, parce que la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir et de comparaître devant Dieu, alors nous aurons l'estimation des choses auxquelles nous aurons accordé trop ou trop peu d'importance. La Bible nous raconte dans le livre de Daniel au chapitre 5 l'histoire du dernier roi de Babylone. Roi d'un empire. Et ce roi de ce roi, il est dit que, avec toutes ses richesses, ses armées, Dieu dit de lui, tu as été pesé et tu as été trouvé léger. C'est-à-dire que tout ce à quoi il tenait beaucoup, il donnait de l'importance, cela manquait de poids. Et il y aura dans ce jour-là un renversement total. Les choses que nous avons estimées ou surestimées nous apparaîtront méprisables, et celles que nous avons méprisées nous apparaîtront estimables. Regardez dans l'évangile de Luc au chapitre 16, le Seigneur nous rapporte l'histoire d'un homme. Quelles étaient ses valeurs avant de comparaître devant Dieu ? Eh bien, ses valeurs, c'était, il se vêtait de pourpre et de fin lin. Il faisait chaque jour joyeuse et brillante vie. Mangeons et buvons, c'était sa devise. Mais écoutez-le maintenant qu'il est dans l'au-delà du désespoir. Écoutez maintenant ses valeurs, qu'il entend la voix de l'éternité. Écoutez sa prière. Il dira, Père Abraham, envoie Lazare vers mes frères dans la maison de mon père parce que j'ai 5 frères pour qu'ils ne viennent pas ici dans ce lieu de tourment. Ah, ces choses, il les voit maintenant dans la proportion de l'éternité, dans la perspective de l'infini. Et lui, qui ne pouvait pas entendre une parole de l'évangile sans se moquer, sans se gausser, il se ferait maintenant évangéliste s'il le pouvait, afin de transmettre ce message au plus grand nombre. Alors si j'ai bien compris, l'estimation des valeurs ne doit pas être laissée à notre choix. Pourquoi ? Parce que nous sommes sujets à variation. Or, il y a dans l'épître de Jacques, si je me souviens bien, une parole qui dit « parle du Père des Lumières chez qui il n'y a pas l'ombre d'une variation ». Et c'est lui qui va nous donner son appréciation. Voyons quelle est son appréciation des choses temporelles qui peuvent avoir leur importance. Écoutez-le, je l'ai déjà dit une fois, « vanité des vanités ». Tout est vanité et poursuite du vent. Écoutez maintenant ces valeurs à lui qu'il nous propose. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Écoutez-le parler aux jeunes. L'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. Et à les promesses de la vie éternelle. Écoutez-le dire, les choses visibles, c'est pour un temps, mais les choses invisibles sont éternelles. Écoutez, le Seigneur dit, ne vous amassez pas des trésors sur cette terre, là où la teigne et la rouille des manches et où les voleurs percent. Souvenons-nous des bijoux de certaines grandes vedettes dont je ne citerai pas le nom, l'abbé Goum, entre autres. Des fortunes immenses. Les voleurs sont allés pénétrer et y dérober. Alors, voulons-nous une valeur sûre? Des valeurs que rien ne viendra ébranler, plus sûres que le roc de Gibraltar. Que ni vent, ni marée, ni homme, ni avenir, ni passé, ni démon, ni maladie ne pourront jamais ébranler, valables d'un bout à l'autre de la terre, d'une extrémité à l'autre du ciel. Est-ce que nous voulons une valeur qui tient? Écoutez la réponse de Dieu. La valeur universelle, c'est Jésus-Christ. L'Épître aux Hébreux dit de lui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est la valeur de Dieu. Il est le même hier lorsque nous le voyons rempli de compassion, faisant du bien à tous, guérissant les malades, délivrant ceux que le diable avait asservis à sa puissance, aimant le pécheur, plein de sollicitude pour la pécheresse, intransigeant avec les hypocrites, et sauvant le monde par le don de sa vie, par son sang répandu sur la croix, ce sang dont il est écrit que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, patient comme toujours, attendant de votre part une réponse qui tarde à venir, désirant vous sauver comme il a sauvé Zachée, comme il a sauvé Saul de Tarse, comme il a sauvé Marie-Madeleine, désirant remplir votre vie du Saint-Esprit afin que ce soit une vie utile et une vie pleine. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il sera le même éternellement. C'est-à-dire que les décisions qu'il a prises, il les respectera. Il a dit au brigand sur la croix, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis » et il le sera. Il m'a pardonné mes péchés lorsque j'avais 20 ans, sauvé je serai. Parce qu'il est écrit dans l'Épître aux Corinthiens que Jésus-Christ est le « oui » et l'amen de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont « oui » et « amen » en Jésus-Christ. Si bien que la valeur de Dieu pour nous, c'est Jésus. Alors voulez-vous le recevoir si vous ne l'avez pas encore fait? Il ne suffit pas de connaître ces choses. Je suppose que vous les connaissez tous. Le savoir, c'est une chose, mais choisir de le recevoir, c'est autre chose. Et je vais terminer en vous racontant l'histoire d'un homme qui a perdu le sens des valeurs. Il s'appelle Ésaü. Et c'est dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12 et au verset 16, que je trouve ces paroles. « Veillez, est-il dit dans le verset précédent, veillez à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane. » Ce qui caractérise Ésaü, c'est la profanité. « Profane comme Ésaü qui, pour un mais, vendit son droit d'aînesse. » Qu'est-ce qui compte dans la vie ? Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Son repentir ne put avoir aucun effet. Laissez-moi vous raconter en quelques mots. Ésaü, nous le savons, était le frère jumeau de Jacob, mais il était l'aîné. Et en tant qu'aîné, il avait la première tranche des bénédictions matérielles et spirituelles. Il était avantagé par rapport à son frère Jacob. Les valeurs, il les avait de droit. Un jour, alors qu'il était parti à la chasse, il est revenu bredouille. Au moment où son gredin de frère Jacob cuisait un potage de lentilles, la Bible dit un roux, quelque chose de grillé aux oignons, vous savez, qui vous remplit les narines à 500 mètres de distance. Il mourait de faim, du moins le croyait-il, et il est arrivé à ce moment-là, et il a demandé à son frère un peu de son potage de lentilles, de son roux, et Jacob, en bon commerçant, donnant, lui a dit « D'accord, mais tu me vends ton droit d'aînesse. » Et Ésaü a dû réfléchir. Le droit d'aînesse ou le plat de lentilles ? Qu'est-ce qui compte dans la vie ? Quelle est la valeur ? L'estimation de valeur. Que va-t-il estimer ? Le droit d'aînesse, le plat de lentilles, le droit d'aînesse, et plus il réfléchit, plus il a faim. Et il se dit « Mais je vais mourir de faim ! À quoi ça va me servir, mon droit d'aînesse ?» Et il a basculé. Il a fait son choix. Qu'est-ce qui compte ? Le plat de lentilles. Et il s'est dit « Autant de prix. » On verra bien après, parce que c'est toujours après qu'on voit. Et on a vu que la bénédiction est allée à son frère. Il a pleuré, il a supplié, il a voulu la revoir. Mais la Bible dit « son repentir fut sans effet ». C'est-à-dire qu'en dehors de son droit d'aînesse, de cette valeur divine, tout était sans effet. Son repentir, ses larmes, n'avaient plus que la valeur du plat de lentilles qu'il avait choisi. Et mes chers amis, en dehors de Jésus-Christ, retenez ceci, nos œuvres sont appelées des œuvres mortes. En dehors de Jésus-Christ, notre justice est appelée par Ésaïe un linge souillé. Et en dehors de Jésus-Christ, l'Épître aux Corinthiens dit que notre repentance, c'est une tristesse qui conduit à la mort. En dehors de Jésus-Christ, rien ne prévaut. Tout n'a de valeur qu'en lui. Et si vous n'avez pas Jésus-Christ comme sauveur, quelle valeur allez-vous présenter devant Dieu dans ce grand jour de la rencontre ? Qu'allez-vous lui dire ? Allez-vous lui dire, « Mais Seigneur, tu sais, moi quand je suis né, je pesais 4 kilos. » Ou bien allez-vous lui dire, « Seigneur, aux derniers examens, j'ai fait 85%. » Allez-vous lui dire, « Seigneur, j'ai fait des exploits sportifs. » Lui direz-vous, « Seigneur, j'avais une épouse si charmante. » Allez-vous lui dire, « Seigneur, j'ai développé une personnalité dans le monde où j'ai évolué. Je me suis acquis une certaine position. » Allez-vous lui dire tout ça ? C'est la valeur d'un plat de lentilles. Car c'est là la seule valeur qu'Ésaü pourra présenter dans ce jour-là le plat de lentilles qu'il a choisi. Il avait droit à la première tranche des bénédictions de Dieu. Au lieu de cela, il a désormais droit au plat de lentilles, et vous aussi, vous avez droit. Vous avez droit au pardon de Dieu. Vous avez droit au salut. Vous avez droit à la communion des anges. Vous avez droit à l'avenir éternel. Vous avez le droit au ciel. Vous avez droit à l'éternité. Vous avez tous ces droits. Mais vous avez aussi droit aux jouissances malsaines du monde. Vous avez droit de vivre à votre guise. Vous avez droit d'écarter Jésus-Christ. Vous avez tous ces droits. Et la finale, c'est celle-ci. Duquel de ces deux droits allez-vous vous prévaloir? Duquel de ces deux droits allez-vous vous prévaloir? Jésus ou les plats de lentilles du monde? Il y a un choix à faire. Ce choix, vous pouvez le faire ce matin. Vous pouvez le faire maintenant, à cette heure précise, dans cet endroit où l'on est venu apporter sa louange au Seigneur. Où vous avez peut-être dit amen aux prières, partagez ces chants, sans que pour autant votre cœur n'ait choisi Jésus-Christ le Sauveur. Et vous pouvez le choisir à présent, maintenant, dans ce moment de recueillement, dans cette minute de vérité qui va suivre, vous pouvez vous tourner vers lui et lui dire, Seigneur, ce matin, c'est toi que je choisis. Vous pouvez le dire intérieurement et nous allons nous recueillir tous ensemble maintenant. Que toutes les têtes se courbent, que tous les fronts s'inclinent. Seigneur, tu nous as parlé par ta parole. Tu nous as tenu le langage de la rigueur, d'une réflexion rigoureuse. Et tu as mis devant nous, en fait, la vieille et bonne histoire des deux chemins, le chemin large et le chemin resserré, le plat de lentilles ou le droit d'aînesse. Seigneur, tu nous as présenté par ta parole les avantages de ce monde, les choses d'un temps, les choses qui passent, ou alors tes valeurs à toi. Seigneur, permets que chacun de nous qui est en route dans le chemin de cette vie prenne la bifurcation de la croix du calvaire, ce petit sentier qui conduit à la vie éternelle. Ô Seigneur, que les paroles qui ont été dites dans la faiblesse aujourd'hui nous suivent et que nous en fassions tous notre profit. Et ma prière personnelle, c'est que quelqu'un qui te cherche sans t'avoir encore trouvé, te trouve aujourd'hui et dans un esprit de décision, choisisse la valeur que tu nous as proposée dans la personne de Jésus-Christ. Accueille notre prière, donne des prolongements à notre rencontre et à nos réflexions, et reçois nos hommages au nom béni et adorable de ce merveilleux Sauveur que tu nous as donné, ton propre Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et Maître. Amen, Seigneur.